Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme.
Ah 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 ah, salut à mes gaillards et mes gaillards. C'est Nicolas, on est ensemble pour 30 minutes. Bienvenue dans Salut les kids. Ah, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui, on est mercredi 27 novembre et dans moins d'un mois, c'est Noël. J'espère que vous avez hâte. Pour l'occasion, je vous prépare une émission spéciale pour vivre la magie de Noël. C'est pas super, ça ? En attendant, aujourd'hui, au programme, il y aura donc le traditionnel mot d'anglais. Les enfants, j'adore l'anglais, ça me sert tous les jours dans la vie et j'y mets tout mon cœur pour vous faire aimer cette langue, car pour moi, parler anglais, c'est comme un super pouvoir. Et les super pouvoirs, c'est trop cool les enfants, n'est-ce pas ? J'ai aussi une petite surprise pour vous dans cette rubrique, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, vous aurez trois histoires pour vous détendre et vous échapper dans l'imaginaire. En plus du labo des sciences où vous partirez à la découverte des nuages, les moutons du ciel. Un peu de musique pour finir l'émission et puis topette. C'est donc un peu comme une grosse part de gâteau à dévorer que l'on va grignoter ensemble pendant les 30 prochaines minutes. C'est l'heure de se régaler, les enfants. Allez, c'est parti, on s'installe et on ouvre la malle à outils. Voici un nouveau mot d'anglais à mettre dans votre collection.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Et le mot d'anglais du jour, écoutez bien les enfants, c'est soft. Je répète, soft, soft, S-O-F-T. Ça veut dire mou. Et ça veut dire aussi « doux ». Il s'écrit en quatre lettres. S-O-F-T. Soft. Comme dans la phrase « le ballon est mou ». En anglais, « the ball is soft ». Souvenez-vous les enfants, dans l'émission précédente, vous avez appris le mot « ball » qui veut dire « ballon ». Eh bien, vous pouvez ajouter les deux et dire « soft ball ». Le softball est un sport de balle souvent pratiqué aux États-Unis, où il faut frapper une balle avec une batte. Vous remarquez les enfants à quel point l'anglais c'est facile ? Pour vous amuser, j'ai une surprise avec une comptine anglaise. Elle s'appelle Submarine. On écoute.
Submarine, submarine, take me deep into the sea. Alors, leo fish, and the big one, and flash carols. It's with me, Lucive, Submarine.
Je suis sûr que vous la connaissiez tous. Elle est souvent apprise dans les écoles. C'est tout pour aujourd'hui, les copains. Et n'oubliez pas que l'anglais, c'est tous les jours que l'on peut s'en servir. On referme la malle à outils. Vous voilà encore mieux équipés pour partir à l'aventure. Maintenant, c'est l'heure de s'installer confortablement pour la grande histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire du mythe de Ouagadou, extrait du livre « 1000 ans de contes, Afrique ». Selon l'auteur Souleyman Mbodji, conter est un moment de tendresse, de plaisir et de connaissance qui vous permet, les enfants, d'apprivoiser vos émotions et d'apprendre comment se fabrique une histoire. Alors on s'installe et on se laisse porter.
La grande histoire.
Il y a longtemps, très longtemps, Dinga le sage, le magicien, le maître du feu et du fer, quitta la vallée du Nil pour traverser le continent africain, à la recherche d'une terre promise par les dieux. Il était accompagné par son clan, les Sissé, maîtres de savoir, par les Batili et les Diarisso, famille de guerriers et de nobles. Des musiciens, des griots, des bergers avec leurs troupeaux faisaient partie de l'exode, ainsi qu'hommes, femmes et enfants. Après avoir marché pendant des années et des années, Dinga arriva enfin dans le village de Diawara, une contrée d'Afrique de l'Ouest peuplée de génies. Le chef des génies refusa à Dinga le droit de s'y installer. Dinga lui expliqua qu'il voulait juste se reposer avec sa troupe et se désaltérer avant de poursuivre son chemin. Mais le génie lui imposa de se battre avec lui, car nul ne pouvait poser un pied dans son village avant de livrer un combat. Dinga savait que ce génie pouvait tuer un adversaire uniquement en le fixant dans les yeux. C'est pourquoi il évita le regard du génie avec soin. Ce dernier comprit que Dinga n'était pas un adversaire comme les autres. Il fit disparaître les compagnons de Dinga en soufflant sur eux avec une épaisse fumée noire. Puis il éclata de rire, un rire qui fit trembler la terre, obligea les fleuves à quitter leur lit, somma le tonnerre de gronder. « Maintenant, dit le génie, si tu veux retrouver ton peuple, tu devras me tuer. » Puis il se jeta férocement sur Dinga. La lutte dura des jours et des nuits. Les animaux quittèrent la savane, la brousse, la forêt pour se réfugier dans les falaises sacrées. Les arbres s'arrachèrent les cheveux, le ciel s'assombrit. Même le soleil n'osait plus faire sa ronde et distribuer ses rayons bienfaisants. Dinga finit par tuer le génie en lui coupant ses tresses magiques et en récitant des paroles mystérieuses. Avant de disparaître, le génie dit à Dinga « Tu es un grand chef, je m'incline. Je te confie ma fille unique, épouse-la, et tu auras un empire prospère. » Sur ces mots, il disparut dans un nuage de fumée, entraînant les autres génies avec lui. Quand la fumée se dissipa, le peuple de Dinga réapparut. Les retrouvailles furent fêtées dignement au son des tambours, des chants et des danses. Au milieu de la soirée, une voix merveilleuse retentit dans la foule. Une belle jeune femme chantait. « Je suis la fille du génie, je suis ta future épouse, Dinga. » Après avoir consulté les sages, Dinga accepta de se marier avec elle. Puis il fonda un royaume riche, où la paix et la justice régnaient. L'épouse de Dinga mit au monde des jumeaux. L'un, nommé Bida, était un python noir doté d'une crinière. Il fut caché dans le puits de Ouagadou. Nul n'avait le droit de le voir, à l'exception de ses parents et de son frère jumeau, Diabé Cissé. Pendant des longues années, le peuple vécut dans la prospérité. Il ne manquait de rien. À la mort de Dinga, les sages se réunirent et décidèrent d'introduire Diabé Cissé comme nouveau roi à la place de son père. Ils lui demandèrent d'annoncer lui-même la nouvelle à son frère Bida le serpent. Quand Diabé l'informa de la décision des sages, Bida lui répondit « Je suis aussi fils de Dinga, je suis prince comme toi, mais les hommes préfèrent toujours leurs semblables. J'accepte que tu deviennes roi à la condition que l'on me sacrifie tous les 7 ans une jeune fille vierge au cœur pur, choisie parmi les plus grandes familles du royaume. En contrepartie, je veillerai sur ton peuple, je donnerai de l'or, beaucoup d'or, de la pluie et surtout j'apporterai la paix et la santé. » Diabé exposa les exigences de son frère. Après réflexion, les anciens approuvèrent le pacte qui lierait le peuple à Bida. Le royaume s'appelait désormais le royaume de Ouagadou. Diabé Cissé décida de fonder une nouvelle capitale. Les sages consultèrent les fétiches qui, pour éclairer le choix de la future résidence du roi, leur indiquèrent la demeure d'une vieille hyène détentrice de connaissances. L'animal leur dit « Je peux vous indiquer l'endroit idéal où le roi vivra longtemps, à condition que vous nous offriez chacun un cheval, à moi et à mon allié Douga le vautour. Et ce, tous les jours pendant 7 ans. » Le contrat fut conclu. La hyène fabriqua un tambour qui commandait la pluie, puis elle demanda au sage de le suivre. Douga le vautour prit le tambour dans ses serres. Le cortège marcha pendant 7 jours et 7 nuits. À la fin de la dernière nuit, la hyène scanda d'une voix forte une onomatopée rythmique. « Tagoun, tagoun, taginguin, tagoun !» Alors Douga lâcha le tambour. À l'endroit où l'instrument était tombé fut établie la capitale du royaume. Elle prit le nom de Kumbi et devint une ville réputée, avec de larges avenues bordées de fromagers et de palmiers majestueux. Elle fut un centre d'échange intellectuel et économique, un haut lieu de transmission de savoir et de connaissances. Tous les 7 ans, à la fin de la saison des pluies, le sacrifice d'une jeune fille se déroulait devant le puits de Ouagadou. 4 grands conseillers du roi, appartenant au clan protecteur du rituel du Ouagadou, les Sako, les Diagoura, Sila et Goumané, sélectionnaient la jeune fille. Le choix se faisait lors d'un tournoi de jeu de stratégie basé sur le calcul, le Wuri ou Awale. La première perdante était sacrifiée. Il arrivait que le choix ne plaise pas au serpent car il estimait que la jeune fille n'avait pas assez le cœur pur. Un autre jeu était organisé. La fille choisie, habillée tout en blanc, était coiffée de 33 tresses qui représentaient la sagesse. Ses lèvres étaient tatouées, symbolisant son courage et sa beauté. Le jour du sacrifice, la fille était accompagnée par ses parents, le roi, les sages et tout le peuple. Les griots chantaient ses louanges. À quelques mètres du puits, un roulement de tambour annonçait la sortie du serpent. Bida levait la tête 3 fois avant de s'emparer de la fille. Aussitôt, le ciel s'assombrissait et il se mettait à pleuvoir. Après la pluie, des pépites d'or tombaient pendant 7 jours et 7 nuits. Cela se déroula ainsi pendant des années et des années. Le royaume devint riche et prospère. Il devint même un empire prestigieux. Diabé Cissé fut un bon roi. À sa mort, il fut enterré avec son griot, comme le prévoyait la tradition. Une année, une fille du nom de Sia Yatebere avait perdu au jeu du Wuri et devait être sacrifiée. Elle était la fiancée de Mamadi Sako, le taciturne. Il refusait que Sia soit livrée au serpent. Le jour de la cérémonie, Sako se présenta devant le puits, malgré les conseils de sa bien-aimée qui acceptait son sort. Il s'agissait en effet d'un sacrifice pour son peuple. À la première apparition du serpent, Sako lança son cheval au galop. Il trancha la tête de Bida, mais 6 autres têtes repoussèrent. Sako les coupa toutes. Puis il attrapa Sia. Ils disparurent à tout jamais grâce à la rapidité du cheval. L'assistance, effrayée par la mort de Bida, était catastrophée. Avant de mourir, le python eut le temps de maudire le royaume. « Vous avez rompu le pacte qui nous liait. Vous ne serez plus heureux chez vous. Vous vous dissiperez à travers le monde. Vous serez réduits en esclavage. Vos connaissances et vos croyances disparaîtront. » Les têtes de serpents s'éparpillèrent sur le continent africain. Elles se transformèrent en mines d'or. Une sécheresse suivie d'une famine sévit dans le pays. L'empire du Ouagadou vola en éclats et perdit toutes ses possessions. Le peuple quitta le pays qui fut envahi par des nomades venus du désert, les Sininkés, nom commun pris par les Cissé et les clans qui les avaient accompagnés dans leur migration, vivent majoritairement aujourd'hui au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. Fin de l'histoire.
La grande histoire.
Et le livre « 1000 ans de contes » est disponible dans le réseau de bibliothèques Loire-Authion, un réseau dans lequel vous retrouverez aussi les dernières nouveautés pour enfants sélectionnées par l'équipe de passionnés et bénévoles que je salue chaleureusement et qui participent à vous offrir les meilleures histoires que l'on puisse imaginer. Maintenant les enfants, on se rejoint dans le Labo des Sciences.
Approchez les enfants. Bienvenue dans le laboratoire de Salut les Kids. Est-ce que vous êtes prêts à percer les mystères de la science ?
Aujourd'hui, on va partir à la découverte des nuages. Vous avez déjà levé les yeux au ciel et vu ces drôles de boules cotonneuses qui flottent tout là-haut ? Ce sont des nuages, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des nuages magiques. Les nuages ne sont pas faits de coton et de mousse, comme on pourrait le croire. En réalité, ils sont faits de tout petits morceaux d'eau ou de glace, que l'air fait tourner et transporte dans le ciel. Quand l'eau de la terre s'évapore et monte dans l'air chaud, elle se transforme en petites gouttelettes ou en cristaux. Ces petites gouttes se regroupent pour former un nuage. C'est un peu comme si vous souffliez doucement sur une vapeur de soupe chaude et que vous voyez la brume se former. Il existe différents nuages. Par exemple, les cumulus. Ce sont les gros nuages blancs et moelleux, un peu comme des boules de coton. On les voit souvent par beau temps, quand le ciel est bleu, et ils aiment prendre des formes rigolotes, comme des animaux ou des châteaux grâce à notre imagination. Il y a aussi les nimbostratus. Eux, ce sont des nuages tout gris, tout épais, et ils aiment bien cacher le soleil. Si vous les voyez, c'est souvent qu'il va pleuvoir. Alors, il faut prévoir un parapluie. Pour terminer, les cirrus. Ce sont des nuages tout fins et tout légers comme des fils. Ils sont très hauts dans le ciel et ils annoncent souvent que le temps va changer. Et vous savez quoi ? Les nuages sont très malins. Ils nous prévoient souvent le temps qu'il va faire. S'ils sont tout gris et bas, il va probablement pleuvoir. S'ils sont tout blancs et moelleux, le temps sera plutôt beau. Les nuages voyagent aussi avec le vent et ils peuvent nous faire des surprises. Parfois, ils arrivent très vite et parfois, ils restent là-haut. À jouer à cache-cache avec le soleil. Alors la prochaine fois que vous regardez le ciel, souvenez-vous, les nuages sont là pour nous dire plein de choses sur le temps et ils sont un peu comme des artistes, dessinant des formes et des histoires dans le ciel. Et d'ailleurs, les enfants, savez-vous comment se sent un nuage le jour de son anniversaire ? Attention, eh bien, il se sent... Je suis sûr que vous l'avez. Il se sent plus vieux. Eh oui, mais en deux mots. Ah. Maintenant, les enfants, on continue la lecture d'histoire avec un conte des frères Grimm qui s'appelle, et je suis sûr que vous le connaissez tous, Hansel et Gretel.
Hé 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 hé. La deuxième histoire.
Il était une fois, à l'orée d'une profonde forêt, deux enfants nommés Hansel et Gretel. Avec leur père et leur belle-mère, ils habitaient une minuscule maison pleine de courants d'air. Un sombre jour d'hiver, les assiettes restèrent vides, car il n'y avait plus rien à manger. Alors que le pauvre bûcheron se lamentait, sa femme trouva la pire des solutions. « Nous ne pouvons plus garder tes enfants. Deux qui vivent valent mieux que quatre qui meurent de faim. Demain, nous irons les abandonner dans les bois. » Le père eut beau protester, rien ne fit céder la méchante marâtre. Les deux enfants avaient tout entendu. Gretel fondit en larmes, mais son frère lui chuchota à l'oreille de garder courage, car il savait quoi faire. Le lendemain, la famille marchait en silence sur le chemin craquant de givre. Hansel traînait un peu, car à chacun de ses pas, il jetait quelque chose derrière lui. Les parents firent un feu pour les enfants et s'éloignèrent pour chercher du bois. Bien sûr, le jour passa et ils ne revinrent pas. Le soir venu, les enfants étaient bel et bien perdus. Le garçon montra alors à sa sœur ces petits cailloux blancs qu'il avait semés et qui brillaient comme un chemin de luciole dans la nuit noire. Ils étaient sauvés. Marchant pendant des heures, ils retrouvèrent leur logis au petit matin. La marâtre, folle de rage, ne s'avoua pas vaincue et enferma les enfants à double tour. Le lendemain, la famille reprit le chemin des bois. Hansel, qui n'avait pas pu refaire une provision de cailloux, jeta derrière lui de minuscules morceaux de pain. Mais hélas, une fois que le frère et la sœur furent de nouveau perdus, le petit garçon se rendit compte que les oiseaux avaient mangé toutes ses miettes. Malgré leur fatigue, les enfants continuèrent à marcher, deux jours durant. Ils étaient si découragés qu'ils se sentaient prêts à se laisser dévorer par les bêtes sauvages. C'est alors qu'ils virent devant eux une incroyable maison toute de pain d'épices. Le toit couvert de tuiles aux amandes était soutenu par des poutres de nougatine moelleuse. Quant aux murs, ils étaient incrustés de bonbons multicolores. Affamés, ils commencèrent à grignoter un volet. Une voix se mit alors à chanter. « Et je te grignote et grignotons, qui me grignote ma maison ?»« C'est le vent, ce garnement sans façon qui grignote ta maison, » répondirent les enfants tranquillement. Une étrange vieille femme sortit alors de la maison et leur parla d'une voix de miel. « Mes petits chéris, entrez donc chez moi, vous avez l'air épuisés. » Les enfants, même effrayés, avaient tellement sommeil qu'ils entrèrent chez la vieille. Elle leur désigna deux petits lits bien douillets et les borda. Lorsque le jour se leva, Gretel poussa un cri. Son frère était enfermé dans une cage et devant elle se tenait la plus abominable des sorcières. « Prépare à manger !» lui hurla-t-elle. « Une fois ton frère devenu bien gras, je m'en régalerai. » Ainsi, chaque matin, l'horrible femme, presque aveugle, tâtait le doigt de l'enfant à travers les barreaux pour voir s'il était plus gras que la veille. Mais comme Hansel lui tendait tous les jours un petit os de poulet en guise de doigt, elle finit par s'énerver. « Tant pis si tu ne grossis pas, tu finiras aujourd'hui dans ma marmite, je n'attendrai pas un jour de plus. » Décidée aussi à faire rôtir la petite fille, elle envoyait Gretel vérifier si le four était assez chaud. La petite, qui avait tout deviné et qui voulait sauver son frère, lui dit alors « Je n'arrive pas à ouvrir la porte du four !»« Stupidois sans cervelle !» s'exclama la vieille. « Laisse-moi faire !» Aussitôt, Gretel poussa de toutes ses forces l'horrible sorcière dans le feu et verrouilla derrière elle la lourde porte de fer. Puis elle libéra Hansel qui sauta dans ses bras. Avant de partir, ils fouillèrent la maison et trouvèrent des diamants et des perles dont ils remplirent leurs poches. Quelques jours plus tard, ils étaient de retour. Leur père pleura de joie en serrant contre lui ses enfants qui lui avaient tant manqué. Comme sa femme l'avait quitté, ils purent vivre enfin heureux. Et grâce aux diamants, ils n'eurent plus jamais faim. Fin de l'histoire. Et bien voilà les enfants, ce conte est vraiment toujours aussi génial et j'adore cette maison, elle me rend gourmand. Tout de suite, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas, un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture.
Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids.
Et j'ouvre l'agenda des sorties, les enfants. C'est l'heure de parler événements, de quoi discuter avec papa et maman des prochaines aventures. Avec pour commencer la foire Saint-Martin qui se terminera dimanche. C'est donc le dernier week-end pour aller s'amuser dans le Palais du Rire ou vivre des sensations fortes dans le Moving Top. Retrouvez aussi le 4 et le 7 décembre un atelier animé par Angers Patrimoine à l'occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rendez-vous à Angers au Cloître Toussaint pour observer les plafonds voûtés et comprendre l'architecture. Vous pourrez ainsi vous transformer en architecte pour bâtir des voûtes à l'aide de cubes dans un atelier animé à partir de 8 ans. Plus d'infos sur le site de la ville d'Angers. Et avant de se quitter en musique, je vous invite à partir avec moi pour une dernière histoire, les enfants.
Elliot, tu crois que c'est la dernière histoire ?
Oui, vite.
Maître des brumes. Un livre de Tommy Ungerer. Finn et Cara étaient frères et sœurs. Ils vivaient avec leurs parents en Irlande, dans un petit village de pêcheurs, sur une île coupée du monde. Le père passait ses journées en mer. La mère s'occupait de la ferme. Finn et Cara l'aidaient de leur mieux. La famille était pauvre, mais ils ne manquaient de rien. Le peu qu'ils avaient suffisait à leur bonheur. L'après-midi, Finn et Cara gardaient les moutons sur la falaise. Ils aidaient à charger la tourbe séchée que le père avait débitée en briquettes pour le feu. La nuit venue, le vent se déchaînait en hurlant. Ils se sentaient bien au chaud et à l'abri dans leur maison. Un jour, le père leur fit une surprise. Avec des roseaux tressés et de vieilles toiles passées au goudron, il avait construit pour eux une petite barque que, dans leur pays, on appelle courache. Finn et Cara avaient maintenant leur propre embarcation. « Ne sortez pas de la baie !» les avertit le père. Et surtout, ne vous approchez jamais de l'île aux brumes. C'est un endroit maudit, dangereux, cerné par les courants les plus traîtres. Ceux qui se sont aventurés dans ces eaux ne sont jamais revenus. Au loin, l'île aux brumes transperçait l'horizon, menaçante comme une vieille dent de sorcière. Finn et Cara adoraient caboter le long de la côte et pêcher du poisson. Mais un beau jour, un brouillard épais envahit la baie. La marée les entraîna vers le large. Poussés par de forts courants, leur courache partit à la dérive. Ils étaient perdus. Seule la cloche d'une balise résonnait dans le silence cotonneux. L'obscurité descendit peu à peu. Le courant les conduisit jusqu'à une petite crique. Ils tirèrent leur barque sur le rivage et s'installèrent pour passer la nuit. Comme la lune montait dans le ciel et inondait la grève d'une lumière laiteuse, un escalier creusé dans la falaise apparut. Finn regarda autour de lui et s'exclama. « Regarde, Cara, nous avons échoué sur l'île aux brumes. Allons voir où mènent ces marches. » Les marches étaient escarpées et glissantes, et dans le clair de lune, tout semblait saupoudré de farine. Ils grimpèrent, grimpèrent et grimpèrent encore. Ils atteignirent une porte scellée dans un haut mur de pierre. Ils firent tinter la cloche. La porte s'ouvrit lentement en grinçant sur des gonds rouillés. Devant eux se tenait un très vieil homme.
« Quelle surprise !» s'exclama le vieillard d'une voix caverneuse. « Comment êtes-vous arrivé ici ? Êtes-vous perdu ? Qui êtes-vous »
Devant le silence des enfants, il ajouta.
« Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Entrez !»
Finn et Cara pénétrèrent dans une immense salle obscure, où il faisait curieusement chaud et humide.
« Je suis le maître des brumes, » dit leur hôte. « C'est dans ma brume que vous avez été perdu ce soir. »
« Comment ça, votre brume ?» demanda Finn.
« C'est moi qui la fabrique. Je l'ai répondu, mais à présent je vais la dissiper, afin que vous puissiez rentrer chez vous demain sans crainte. »«
Vous fabriquez la brume ?» répéta Cara.
« Oui, et je vais vous montrer comment, » répondit le maître des brumes.
Il ouvrit la porte métallique d'une immense chaudière.
« Regardez en bas, que voyez-vous ?»
Finn et Cara se penchèrent et découvrirent un puits d'une profondeur insondable. Du fin fond de l'abîme montait une chaleur intense dégagée par une masse rougeoyante et bouillonnante.
« C'est l'enfer !» s'écria Finn. « C'est du magma. Ce que vous voyez là, c'est le centre de la Terre. »
comme au fond d'un cratère de volcan ?
Demanda Kara. Exactement, répondit le maître des brumes. Vous voyez, quand j'ouvre cette valve, l'eau de mer se déverse sur la lave. Elle s'évapore et se transforme en brouillard. Il y a si longtemps que je vis seul ici. La solitude ne m'ennuie pas. Les poissons et les oiseaux me tiennent compagnie. Ils aiment les chansons que je leur chante. Écoutez !
Il se mit à chanter dans une langue oubliée, et bientôt Finn et Kara se mirent à fredonner avec lui. Jamais ils ne s'étaient si bien amusés.
« Vous devez être affamés !» dit soudain le maître des brumes. « Goûtez donc un peu de mon brouet, mes corbeaux me ravitaillent en algues et en coquillages. »
Le goût était fadasse, et pourtant cette soupe revigorait le cœur. Après le repas, le maître des brumes leur montra leur chambre pour la nuit. Ils glissèrent dans un lit immense, épuisés par tant d'aventures. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au milieu d'étranges ruines. Tout cela n'avait-il été qu'un rêve ? Le maître des brumes était-il un fantôme, une illusion ? Mais cette couverture et ces deux bols de bouillon fumant, d'où venaient-ils ?
Finn et Kara étaient pressés de quitter l'île et de rentrer chez eux. Ils n'avaient pas le temps pour des questions sans réponse.
Comme le maître des brumes le leur avait prédit, le brouillard s'était levé. Ils partirent dans leur courage. Les courants, qui s'étaient inversés, les poussèrent gentiment vers leur île. Le maître des brumes contrôlait la brume, mais ni les flots ni le vent. Soudain, Finn et Kara se trouvèrent pris dans une violente tempête. Des vagues déchaînées les secouaient en tous sens, tandis que Finn tentait de maintenir le cap, Kara écopait sans relâche l'eau qui inondait la barque. Les parents n'avaient pas dormi de la nuit et voyaient déjà leurs enfants perdus dans la tourmente. Dès l'aube, le père et les autres pêcheurs du village partirent à leur recherche. Leur courage, plus grand et plus stable, était capable de faire face aux éléments déchaînés. Ils aperçurent Finn et Kara juste à temps. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à hisser les enfants à leur bord. La mer s'était calmée. Sur la grève, la mère de Finn et Kara attendait, la mort dans l'âme. Enfin, le courage apparut. Les enfants sains et saufs étaient à bord. Ce soir-là, tous les voisins se réunirent dans le pub du village pour célébrer le retour de nos jeunes héros. Bien que personne ne fût encore jamais revenu de l'île aux brumes, aucun des villageois ne crut ce que Finn et Kara racontaient.
« Le maître des brumes ? Une fantaisie !»«
Mais non, nous avons une preuve ! Les bols et la couverture sont toujours là, dans les ruines !»
insistèrent Finn et Kara. Personne n'eut le courage d'aller vérifier. Les enfants, c'est connu, racontent n'importe quoi. Un soir, bien des semaines plus tard, toute la famille était en train de dîner. Kara trouva un cheveu dans sa soupe. Elle tira, tira.
« Tiens, le maître des brumes » chuchota-t-elle à Finn.
Leurs parents ne surent jamais, ce qui faisait pouffer de rire les deux enfants. Fin de l'histoire.
C'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la lecture. Ces histoires vous ont plu, je l'espère. Je les choisis pour vous faire voyager et imaginer. Avant de vous dire au revoir, voici maintenant de quoi réveiller vos muscles. On écoute.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are proud.
Et c'est la fin de Salut les Kids. C'est l'heure de retrouver vos activités, les enfants, d'aller jouer là-bas, d'aller jouer là-haut, d'aller jouer dehors. En tout cas, moi, je vous retrouve dans 15 jours avec mon gros manteau et mes gants parce qu'il va faire froid en ce début du mois de décembre. Et je vous embrasse. Allez, salut les kids.
Salut les kids! C'était l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr.